Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Balades en été. Je vais faire très vite pour vous présenter la présente édition de votre émission estivale parce qu'il y a du pain sur la planche, ou plutôt de la peinture sur la palette. En seconde partie d'émission, je céderai la parole à François Legrand, artiste peintre de l'école d'Étampes qui expose actuellement à la collégiale Saint-André jusqu'à fin août, je crois. C'est donc à Chartres. Mais tout d'abord, le point sur la saison touristique qui commence avec le directeur de l'Office de tourisme de Chartres Métropole, Philippe Rossat.
Philippe Rossat, bonjour. Heureux de vous retrouver. On s'était parlé il y a déjà quelques mois et comme vous êtes un directeur de l'Office de tourisme très dynamique, bien des choses sont arrivées depuis. La première chose que vous m'avez fait visiter en arrivant, c'est un parc vélo à l'Office de tourisme.
Exactement, oui, on a une quinzaine de vélos désormais, dont trois vélos assistance électrique qui sont arrivés à l'office il y a un mois. Et on s'est rendu compte qu'il y avait ce service-là de location de vélos qui manquait un peu, puisque on a la maison du vélo qui fait un très bon travail pour les habitants, mais que pour les touristes, on avait sans doute besoin de leur offrir un service supplémentaire. Et donc, on a trouvé un excellent partenaire en la personne de la boîte à vélo, qui travaillait déjà sur la Loire à vélo, donc il y a des belles références. Et du coup, on est devenu loueur de vélos, avec de très bons partenaires, dont les cycles Connor qui nous feront les réparations, mais pour autant, c'est un service supplémentaire qu'on donne à nos touristes.
Ce qui est bien, c'est qu'on peut partir d'ici, par exemple, avec son vélo, aller jusqu'au château de Mattenon et laisser le vélo là-bas, alors.
Exactement, ouais, parce qu'on s'est dit que tout le monde n'était pas forcément extrêmement sportif, donc parfois, il est bon de faire une petite balade, le matin, de déjeuner à Mattenon et puis éventuellement de laisser son vélo à l'office de tourisme. Donc tout le challenge avec notre partenaire, c'est d'avoir des points relais tout au long de la Vélocénie, puisque vous savez qu'on a signé notre adhésion maintenant pleine et entière à cet itinéraire de Paris donc au Mont-Saint-Michel. Et donc entre Chartres et le Mont-Saint-Michel, il y a une douzaine de points où vous pouvez laisser votre vélo. Alors en bon français, ça s'appelle le one way. Alors je dirais c'est le trajet unique. Et puis vous pouvez revenir en voiture, en train ou par tout autre moyen à votre convenance.
Et j'ajoute qu'il y a des vélos de toutes sortes, y compris pour les tout petits enfants.
Exactement, il y a des vélos pour les petits, les moyens, les dames, les messieurs, et puis des vélos électriques pour ceux qui ont envie qui considèrent à juste titre que Chartres et la métropole ne sont pas tout à fait plates et qu'il y a pas mal de petits dénivelés. Donc on en a pour tous les goûts et pour toutes les formes physiques. Donc c'est un vrai service supplémentaire qu'on essaie de proposer.
Alors si on est là ensemble, c'est pour évoquer la création d'un nouveau guide qui ressemble plus à un mag. Hein. D'ailleurs, c'est le mag Chartres Expérience. Chartres Expérience, pourquoi ?
En fait, vous savez, on se rend compte, moi ça fait maintenant un peu plus d'un an que je suis arrivé ici, et il me semble que l'expérience de vie, l'expérience de découverte de cette ville est vraiment extraordinaire. Et donc on a voulu donner un tout petit peu de cette magie, alors très modestement, à travers un magazine, parce que jusqu'à présent, on avait un guide d'accueil, mais ce guide d'accueil, il donnait à la fois des informations culturelles et des infos pratiques. Et puis on s'est rendu compte que les infos pratiques, c'est extrêmement volatile, ça bouge beaucoup. Et du coup, on a voulu travailler sur la complémentarité de nos supports. Donc on a un magazine où vous allez voir beaucoup d'images, beaucoup de textes qui vont vous faire, j'espère, rêver, en tout cas vous donner à lire et à réfléchir.
Et même parfois saliver. Hein.
Oui, vous avez reconnu un de mes petits péchés mignons en l'occurrence. Voilà, toujours le même. Et en l'occurrence, effectivement, on parle beaucoup de gastronomie, on parle beaucoup d'art de vivre, parce que ce qui me semble très clair, c'est qu'à Chartres, on a un art de vivre particulier, et c'est ça qu'on a eu envie de mettre en avant. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'en complément de ce magazine, vous pouvez aller sur le site internet, c'est pour ça que ça s'appelle Chartres Expérience, avec le hashtag, et on renvoie sur le site internet pour les événements, les animations et les infos pratiques.
On s'aperçoit que dans le tourisme, l'expérience, c'est important. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se contenter, par exemple, de visiter un lieu. Il faut participer, il faut que le touriste fasse aussi.
C'est exactement ça. C'est valable pour le vélo, c'est valable pour la visite de la cathédrale. Là, ce soir, j'ai la chance d'aller dans une visite de la crypte à la bougie, à la chandelle. Et c'est une expérience dont on s'aperçoit qu'elle est unique pour à la fois des journalistes, des touristes qui viennent découvrir la destination. Aujourd'hui, on ne peut plus se contenter de dire voilà tout ce qu'on a à vous proposer. On doit prendre un peu les gens par la main et leur donner aussi la liberté de découvrir par eux-mêmes. Donc cette expérience-là, je crois que c'est ce qui fait tout l'intérêt du tourisme et puis ce qui encore constitue notre rôle, c'est-à-dire de donner les bonnes clés pour comprendre la destination.
Alors, la couverture, c'est intéressant parce que c'est à la fois un monument et un événement.
Oui, la couverture, on l'a voulu avec deux des très gros points forts de la destination, à savoir la cathédrale et Chartres en Lumière. Donc c'est à la fois évidemment un site majeur, un site UNESCO, et puis ce qui est, on le voit... l'élément de notoriété de Chartres, et puis cet événement qui dure 6 mois par an, qui est gratuit et qui est quand même le plus gros événement de mise en lumière au monde. Donc on a voulu le montrer très, et l'assumer par rapport à tous nos visiteurs, qu'ils soient français ou étrangers, puisque ce guide est traduit en 3 langues, et donc ça nous permet d'avoir, de toucher une clientèle anglo-saxonne, allemande, etc. Donc sur la première de couverture, vous avez la cathédrale Chartres en lumière, et sur la 4e de couverture, notre excellent partenaire l'Odyssée. Donc vous avez voilà, une offre de loisirs aussi exceptionnelle.
Et puis quand on ouvre le magazine, tout de suite on tombe sur la carte. Et là, on est impressionné, même quand on est chartrain, même quand on est natif ou accouru, comme on dit, on redécouvre la richesse de l'agglomération.
Oui, alors je dois la vérité de dire qu'on a passé avec mon président Jean Godet 6 mois à faire le tour des communes de l'agglo, des 66 communes, pour essayer d'aller trouver tout ce qui s'y, voilà, toutes les richesses de cette agglomération. Et je dirais que même Jean, qui lui est chartrain depuis 40 ans, on a découvert des choses. Donc on a découvert des lavoirs, des églises, des sites, et on a essayé de créer la première carte, la première base de données même cartographique de l'agglomération, et on se rend compte qu'il y a énormément de choses en dehors même de Chartres et de sa proche couronne.
Cela avec les pistes cyclables, la flottille de vélo, évidemment, on met plusieurs jours à faire tout ça et les gens restent la nuit.
Exactement. L'objectif, je crois que je l'ai dit dès que je suis arrivé, c'est d'arriver à faire rester nos visiteurs au moins 48 heures, voire 72 heures. Donc je dirais qu'avec Chartres en lumière, on a déjà largement réussi à les faire rester au moins une nuit, à fréquenter les restaurants, les lieux de sortie, etc. Et puis maintenant, le dimanche ou le deuxième jour, on a de quoi leur proposer des itinérances douces, donc le vélo, le canoë-kayak, puisqu'on a un partenariat avec Chartres Métropole Canoë-Kayak, avec des visites, y compris de Chartres en lumière en kayak, c'est absolument génial. Et donc l'idée, c'est vraiment de montrer que dans cet agglo, on peut passer du temps, se réparer, flâner et découvrir des choses qui ne sont pas immédiates et qui se donnent progressivement. Donc il y a un vrai art de vivre chartrain et de l'agglomération qu'on a envie de faire découvrir.
Vous m'avez dit que les hôteliers sont assez contents cette année. Hein.
Oui, je crois que la saison a bien démarré. On a plutôt, même si la météo a été un peu capricieuse de temps en temps, mais les réservations hôtelières se passent bien. Nous, notre fréquentation est en hausse aussi à l'office, donc c'est aussi un indicateur important. Donc c'est une saison qui se présente bien, et puis on a quelques événements majeurs à venir qui font que ça devrait bien continuer.
Ouais. Et vous avez aussi ouvert vos colonnes à ceux qui louent des chambres d'hôtes. C'est important parce qu'il n'y a pas que l'hôtellerie pour accueillir les touristes.
Non, vous savez, à l'office, on a presque 300 partenaires aujourd'hui. Moi, je suis très attaché au fait qu'on soit l'ambassadeur, au fond, de toutes les richesses de ce territoire. Et outre les hôtels, avec qui on a d'excellentes relations, avec le club hôtelier, on fait des salons ensemble, on développe la destination ensemble. Il y a aussi des propriétaires de chambres d'hôtes qui font un excellent travail, très complémentaire et aussi très contemporain, parce qu'on se rend compte que c'est une offre qui est, avec les hôtels, coexistent très bien. Et à Chartres, on a une excellente qualité de chambres d'hôtes également. Donc nous, on est contents de pouvoir offrir cette palette à nos visiteurs. Certains ont envie d'avoir des hébergements différents. Et donc, il faut qu'on puisse proposer tout ça.
À ma grande honte, je m'avise que je n'ai pas encore parlé du château de Maintenon. Alors qu'aujourd'hui, c'est la deuxième destination, on va dire, pour ce qui vous concerne.
C'est, oui, à la fois pour ce qui nous concerne, et puis je crois même au niveau du département, je crois que c'est la deuxième destination en termes de visite. Il y a à peu près 80 000 visiteurs payants au château. Nous, on a eu le plaisir d'ouvrir un bureau d'information touristique le 17 mars dernier. On a déjà les premiers chiffres de fréquentation. On a eu plus de 1 000 visiteurs qui sont venus à Maintenon. Et donc, c'est clairement, dans notre stratégie de développement, un point très, très important. Et en fait, entre Chartres et Maintenon, vous avez les deux pôles de l'agglomération, les deux pôles touristiques à proprement parler, et autour de ces deux pôles, évidemment, gravitent beaucoup de points d'intérêt. Donc c'est vrai que Chartres maintenant, Chartres, c'est la colonne vertébrale touristique autour de laquelle on travaille.
Et voilà, il y a de belles choses à voir en Eure-et-Loire, et puis on peut découvrir tout ça en vélo, c'est encore mieux. Vous pouvez aussi même aller à pied à la collégiale Saint-André, vous avez le temps, vous avez jusqu'à la fin du mois d'août, pour découvrir à la Collégiale Saint-André de Chartres une exposition de François Lejeune, un peintre qui est un des élèves du grand Philippe Lejeune, le maître de l'école de peinture d'Étampes. Nous avons rencontré François Legrand lors du vernissage de son exposition.
François Legrand, une superbe exposition, c'est une rétrospective aujourd'hui à la Collégiale Saint-André, une peinture qui, de par ses dimensions, sans doute de par ses traitements et ses sujets, se marie bien au lieu aussi. Vous êtes heureux du lieu?
C'est un lieu assez fabuleux. même tout à fait magique et impressionnant de par sa dimension et la spiritualité qui en dégage. Le problème un peu, c'est que c'est, cette dimension-là entraîne des vraies difficultés de choix de tableaux. Il faut vraiment que les tableaux tiennent le coup, non pas seulement par leur dimension, parce que finalement on s'organise pour mettre la ville a préparé des panneaux, on peut mettre les tableaux, mais de loin il faut que ça tienne, quoi. Il faut que ce soit assez costaud. Donc voilà. Et je crois que c'est bien. Enfin, je suis content en tout cas. Ouais.
En tout cas, c'est une exposition qui donne à voir au public toute l'évolution d'un artiste depuis les premiers, c'est ça, jusqu'au dernier.
Les tableaux qui sont réunis ici sont en fait des tableaux, oui, un peu sur 30 ans, 40 ans de peinture. Et il y a une espèce de parcours qui se fait dans l'exposition où on commence avec des tableaux que j'ai faits dans les années 80. Avec ma famille, mes enfants qui ont beaucoup posé, je les mettais souvent dans des situations pour signifier soit une maternité de vierge à l'enfant avec ma femme qui venait d'accoucher par exemple, hein, ou ma fille qui posait en Ancilla Domini, je suis la servante du Seigneur. Enfin bon, il y avait toujours un côté comme ça de me servir entre guillemets des enfants pour leur faire prendre des pauses adaptées à ce que j'avais envie de faire. Donc j'ai beaucoup travaillé avec eux. Après, en parallèlement à tout ce travail d'atelier, il y avait beaucoup de paysages parce que j'étais souvent très impressionné par la grandeur de la Beauce. Ça, je vous apprendrai rien parce que Peggy a déjà dit des choses merveilleuses sur ce paysage, et c'est un paysage tellement impressionnant, un peu justement comme la collégiale, disons que ça fait partie ce sont des endroits un peu difficiles à décrire parce que c'est majestueux. Et la Beauce, quoi qu'on pense, beaucoup de personnes qui pensent que c'est triste, c'est un paysage qui moi me fascine, et j'ai une ferme dans la Beauce et tous les matins je ne manque pas de m'émerveiller devant l'immensité du ciel, le changement des couleurs, le changement des cultures, et tout ça sont des prétextes à peinture en fait. On se met toujours dans des situations d'admiration et d'émerveillement. Et si on n'avait pas l'émerveillement pour nous faire travailler, ben on ne travaillerait pas. Et je crois que l'inspiration, elle vient beaucoup dans le travail. Et le travail est actionné, si on veut, par l'émerveillement. S'émerveiller d'un nuage, s'émerveiller de la beauté d'un pot patiné par la térébenthine, s'émerveiller de la couleur de la peau de ton enfant, enfin tout ça est prétexte à peinture. Et au départ j'étais plutôt un peintre abstrait, et puis au fur et à mesure que mes enfants sont nés, bah justement cette volonté tout d'un coup ça m'a été un peu imposé finalement de faire beaucoup de portraits, parce que je trouve que c'est ce qui me passionne presque le plus dans la peinture, le portrait.
On a d'ailleurs, en regardant vos portraits, le sentiment d'être au bord de surprendre un secret. Est-ce que vous cherchez le secret de... c'était votre famille aussi, mais...
Ouais, pas seulement la famille, en fait. Je crois que d'abord, le peintre ne cherche que le secret de la peinture. C'est ça qui est intéressant d'expliquer quand même. Parce que souvent on me dit, vous arrivez à donner de l'âme à vos personnages, tout ça, mais moi en fait c'est pas mon propos. Moi mon propos il va être de mettre des couleurs, des formes, de les assembler comme il faut. Et je dirais par surcroît, c'est un don, quoi, c'est un cadeau, que ça va être ressemblant et que finalement le modèle va être profond, qu'il va être dans le caractère. Mais c'est un peu, ça vous est donné par surcroît. C'est un plus. Et je crois que la peinture, avant tout, c'est des formes et des couleurs assemblées qui vont donner à voir un portrait ou une nature morte ou un paysage. Mais c'est pas nouveau ce que je dis, c'est Maurice Denis qui l'a dit avant moi. La peinture ne sont que des formes et des couleurs dans un certain ordre assemblé. Et le portrait, évidemment que c'est la personnalité du modèle qui va poser pour vous, évidemment qu'elle influe sur son travail. Et on va pas peindre ses enfants tout à fait pareil que si on peignait quelqu'un d'étranger, mais je dirais qu'on va le peindre avec plus de difficultés justement, parce que ton propre enfant, tu le connais par cœur, mais tu le connais pas forcément sous un œil de peintre. Tu le connais sous une apparence, affective. Donc finalement, la ressemblance, elle est très dure à capter parce que elle est influencée par l'affection qu'on peut avoir et par l'idée qu'on se fait de l'enfant. Et on n'est jamais satisfait parce que son fils ou sa fille, on le connaît avec des yeux d'amour. Et quand je peins un modèle, quand j'ai peint des gens qui vivent dans la rue, tout ça, bon, on a une liberté dans la peinture qui est beaucoup plus grande parce que, et du coup finalement ça peut être plus fort, ça peut être plus intéressant quand on connaît pas les modèles, mais bon, c'est un peu...
Vous essayez finalement de peindre ce qui est, c'est difficile de peindre ce qui est, d'être au niveau du réel, de ce qu'on voit.
Bah, déjà moi je crois que le réel, parfois j'ai vraiment des doutes de savoir s'il existe parce que je crois que s'il n'y avait pas eu les peintres, on n'aurait pas de sentiment du réel. Je crois que sans Cézanne, on verrait pas les pommes pareilles. Et peut-être que moi, mon ambition, ça va être que les gens qui se promènent dans la Beauce, tout d'un coup, ils aperçoivent à travers le paysage des tableaux de moi. Ou que peut-être je leur ai appris à travers mes tableaux à découvrir la Beauce. Donc ça, c'est... Mais je sais pas si j'ai répondu à la question, je sais plus trop bien. En tout cas, c'est un métier, c'est un travail. Il y a à la fois un côté artisanal, parce qu'il faut savoir manipuler son pinceau, et en même temps, vraiment beaucoup de travail. Et c'est souvent ça peut être très décourageant, parce que finalement, on essaye de remplir sa mission. Moi, ma mission, elle m'a été donnée par Rembrandt quand je l'ai vu pour la première fois.
D'où l'autoportrait jeune.
Quand j'avais 13-14 ans, je suis allé au Louvre et j'ai vraiment eu l'impression que Rembrandt quand j'ai vu cet autoportrait qui est au Louvre, j'ai vraiment eu l'impression qu'il me parlait, qu'il me disait vas-y, fais partie de la famille, c'est bon, c'est un beau combat quoi. Et c'est vrai que c'est quand même aussi, il y a une dimension de combat parce que c'est très difficile en fait.
Ah, moi je trouve que vos portraits, c'est un peu comme les icônes, on les regarde mais on a l'impression d'être aussi regardé.
Oui, mais ça, c'est... Ben, non, mais ça me fait plaisir. Mais parce qu'effectivement, si le portrait est réussi, il doit transmettre quelque chose. Mais encore une fois, moi, je ne cherche pas vraiment ça. Après, je l'ai dit tout à l'heure dans mon petit discours, là, je pense que le spectateur, il est vraiment le dernier créateur du tableau. C'est-à-dire, quand vous allez regarder un tableau, si vous l'aimez, et si vous allez lui donner un point final, quoi, il y a pas de peinture s'il n'y a pas de spectateur. Et ça, c'est un peu le problème aussi. C'est pour ça que je remercie la ville de Chartres, bon, parce que c'est quand même un très beau lieu et c'est une visibilité énorme que de pouvoir exposer dans des lieux comme ça. Et donc, il y a un maximum de personnes qui puissent voir les tableaux. Et plus il y a des gens qui regardent un tableau, et peut-être plus le tableau est imprégné du regard des autres, je sais pas.
C'est ce que dit la physique quantique, il n'y a pas de monde si on ne le regarde pas. C'est pareil pour la peinture en fait.
C'est possible, non mais tout à fait, mais moi pour moi la physique quantique j'ai essayé de comprendre, mais j'avoue que j'y comprends rien.
Comme tout le monde.
Mais c'est vrai, non, tout à fait, il y a un côté comme ça. Bon, et en plus, bon, c'est vrai qu'après la vie fait que... Avec le travail, on reçoit des honneurs, on fait des expositions prestigieuses. Et on devient... Là, je suis devenu peintre officiel de la marine, donc ça me permet de voyager sur des bateaux de la marine nationale. Enfin bon, j'ai fait des voyages, un voyage sur l'Hermione, j'ai voyagé sur le Belém. Enfin bon, il y a il y a quand même des côtés sympathiques dans ce travail, dans cette vocation, disons. Mais la plupart du temps, on est quand même dans son atelier et de 8h, 9h du matin jusqu'à 8h du soir, on essaye de faire le chef-d'œuvre qu'on cherche à faire depuis très longtemps. Et là, je sais pas. Je sais pas si... Enfin, ça va peut-être... On va peut-être y arriver. Non, mais je sais pas.
Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'effectivement, un peintre, il est obnubilé par le tableau suivant, celui qu'il est en train de faire, ou celui auquel il pense, pourquoi pas. Vous avez dit, bon voilà, je suis un peu extérieur maintenant à ma création. Donc, vous êtes un spectateur de votre propre œuvre. Est-ce que vous aimez ce que vous voyez quand même ?
C'est une bonne question, parce que c'est vrai que tout d'un coup, quand les tableaux ils sont exposés, ils me deviennent étrangers. Alors, ça dépend comment je suis luné, mais il y a des moments où je me dis, bon, ben quand même... Ben, je crois que c'est pas mal. Je crois que j'ai rempli mon truc, quoi. Mais c'est difficile, hein, parce que évidemment, je dis qu'ils me deviennent étrangers, mais c'est pas tout à fait vrai. J'ai un souvenir sur chacun quand même. Il y a chaque tableau, mais par contre, j'ai pas trop envie de les retoucher là une fois qu'ils sont faits. Alors qu'il paraît qu'il y a des peintres qui retouchent des tableaux. Sauf que là, il y a un grand tableau que je suis en train de faire sur le radeau de la Méduse contemporain, c'est-à-dire la tragédie qui nous taraude tous les jours sur tous ces migrants qui sont là. Et du coup, j'ai pas fini le tableau et je vais le continuer sans doute dans la collégiale pendant l'exposition. Ça me donne un lieu pour travailler qui est à la dimension du tableau parce qu'il est quand même grand et donc ça me plaît bien. Et donc voilà, bon non mais si je vois tout ça accroché, je me dis bon c'est pas mal quand même, bon c'est bon.
Vous avez cette fibre que vous avez transmis peut-être à votre fils Augustin qui avait fondé les Don Quichotte. Tout le monde s'en souvient de cette aventure. Vous avez peint également donc des personnes sans abri. Je trouve que ce sont aussi des tableaux. À travers là, vous avez peut-être rendu leur dignité, donné leur dignité, montré plutôt que rendu d'ailleurs leur dignité avec un prénom aussi.
En fait, c'est vrai que cette aventure m'a été inspirée quand même par l'action qu'a fait Augustin Legrand, donc sur le canal Saint-Martin, des enfants du canal. Enfin, maintenant, il y a une association qui s'appelle les enfants du canal qui travaille aussi dans l'accueil et dans tout ça. Bon, ils ont fait un travail formidable. Et sur le coup, j'ai rencontré plein de personnes qui désespéraient un peu de la vie. Et c'est vrai que ça m'a donné envie de les peindre. J'ai attendu quelques années quand même, un an ou deux, et après j'ai commencé à les retrouver petit à petit, à leur demander de venir poser pour moi. Et comme vous dites, c'est vrai que je les ai fait poser. Ils sont tout à fait normaux. Même mon fils me dit, mais papa, t'es SDF, ils ressemblent pas à des SDF. Et ça me fait plaisir parce que je voulais pas qu'ils ressemblent spécialement à des SDF. Ce qui comptait, c'est que je les peigne en tant que personne, évidemment. Comme c'est des personnes sans abri, mais peu importe, c'est des personnes avant tout. Ils étaient tellement contents et fiers de poser. Et on a eu un échange avec chacun différent, mais toujours, mais hyper enrichissant. Et c'est vrai que moi, ça a été pendant 2 ans, j'en ai fait une vingtaine de portraits grand format. Ça a été une expérience tout aussi enrichissante pour moi que je crois avoir été pour eux. Et c'était une série qui avait été encouragée parce que je devais les exposer en fait au Collège des Bernardins. Et il se trouve que le Collège des Bernardins, au dernier moment, m'annonce que la programmation ne devait pas être dans une programmation artistique parce que finalement c'était pas leur truc. Bon d'accord, et que du coup c'était une illustration de la misère et qu'ils voulaient bien m'exposer mais pas dans un cadre artistique, donc ce qui m'a quand même profondément déplu. Donc finalement j'ai abandonné, je les ai abandonnés. Et c'est dommage parce que justement il y avait cette dimension de la piscine de Siloé, il y avait cette impression où quand les Michel, Richard, Martine rentraient dans mon atelier, c'était tout d'un coup comme une piscine parce que moi-même j'étais aussi transformé par cette action de la peinture à travers la peinture. Finalement, on devenait un peu quelqu'un d'autre. Et tout d'un coup, eux retrouvaient un regard, de l'amour. Moi, j'aime les gens profondément et ils l'ont senti. Et puis ça s'est super bien passé. Ils étaient hyper contents. Et moi, ça m'a beaucoup marqué. Bon, j'étais vraiment très content. Il y a eu tout d'un coup une dimension spirituelle qui, je trouve, aurait eu sa place dans ce lieu magnifique du Collège des Bernardins. Mais bon, c'est une histoire passée. Mais bon.
Est-ce qu'on peut dire 2 mots de l'Apocalypse ? Comment avez-vous réussi à peindre ce qu'on ne peut pas peindre, ce texte que personne ne comprend finalement ? Qu'est-ce que vous en avez retiré pour la peinture ?
Enfin, c'est comme beaucoup de parfois des tableaux, ils m'avaient été commandés donc par la mairie de Saint-Germain-en-Laye, je me rappelle à l'époque, il y a assez longtemps, pour une exposition sur le thème de l'Apocalypse. Et c'est vrai que j'ai travaillé dessus pendant 1 an, c'était très compliqué. Mais en même temps, moi, je me suis attaché à certains passages qui ont ponctué un peu mon travail sur ce tableau, qui est un triptyque qui fait 4 mètres de large et qui se lit de la droite à la gauche, avec au départ la Babylone maudite qui se nourrit du sang des martyrs de Jésus. Enfin, il y a des passages où on voit, du coup, il y a une perspective de la ville et un ange qui est au-dessus et qui jette un sort un peu à cette ville de Babylone. Après, au centre du triptyque, il y a une grande étendue qui la mer se retire et on aperçoit au loin les sept. Il y a toute cette vision de Saint Jean pur où on a l'impression d'être à la place de Saint Jean pour voir. Enfin bon, moi j'ai essayé comme ça, hein, mais c'est vrai que il y a l'ange qui est avec sa faucille et qui est prêt à moissonner. Enfin bon, c'est un espèce de. Je me suis tellement imprégné du texte que finalement, ça m'est venu comme ça, de façon totalement au départ abstraite, et petit à petit, ça a pris du sens. Et sur la gauche, on a la Vierge et l'enfant qui est le sauveur, enfin la venue du Messie. Parce que l'Apocalypse, c'est avant tout une révélation, évidemment. C'est pas, voilà. Est-ce que... Je ne vous apprends rien, vous, dans votre radio.
Bon. Est-ce que, donc vous appartenez à l'école des temps, vous êtes un élève de Philippe le Jeune, oui, vous êtes attendu par les gens. Une dernière question, est-ce que cette école de Philippe le Jeune aussi, elle est marquée par une foi commune?
Ah, ça, je ne sais pas. Moi, j'ai été hyper marqué par la personnalité de Lejeune et par sa foi, et non seulement parce que ça a été mon maître en peinture, mais aussi parce que ça a été mon maître en philosophie, en éducation tout court. Et moi, je l'ai connu parce qu'il travaillait avec mon oncle qui était maître verrier, et ils faisaient des vitraux ensemble, donc je l'ai connu depuis que j'avais 5-6 ans, donc j'ai l'impression d'avoir toujours connu. Après, quand il a créé cette école des Tempes, on a été évidemment... Mais on n'est pas liés entre nous les peintres, par une foi. Ce qui est normal, on est liés par la foi de la peinture. Mais on est toujours très proches, et aussi bien avec Christophe de Buchet, avec Jacques Roux, avec Marie-Angèle Castillo... Carole Melmou, enfin il y a plein maintenant des jeunes qui sont venus derrière, et c'est nul de commencer à citer des gens, parce que si tu les oublies après tu te fais engueuler. Non mais bon, voilà, mais maintenant chacun a pris un peu sa voix et son truc, et au point de vue spirituel, et je sais pas trop où, je crois que certainement on a tous été un peu imprégnés d'une dimension, en tout cas spirituelle, ça c'est sûr. Ouais.
Voilà, allez à la Collégiale Saint-André à Chartres, découvrir cette très belle exposition, cette rétrospective de 40 ans de peinture de François Legrand de l'École des Tempes. Nous arrivons au terme de cette émission Balades en été. Je vous dis tout simplement à la semaine prochaine. Excellente fin de journée à toutes et à tous, à l'écoute des programmes de Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes.